Bonjour.
Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvie et je suis l'une des stagiaires de l'Église. La prédication que je vais vous donner aujourd'hui vient s'inscrire dans, expliquait Nicolas tout à l'heure, la venue de Philippe de Kourou. On a choisi de faire plusieurs prédications sur ce thème-là. Il y a 50 ans, Martin Luther King est décédé. Il a été assassiné à cause de la cause pour laquelle il se battait. Si son combat est resté inachevé, il aura tout de même fait avancer les choses pour les Noirs américains et pour la liberté en général. La désobéissance civile et la non-violence prônées par Martin Luther King ont mis fin au système de discrimination de la ville de Montgomery, en Alabama, en Amérique. Pourtant, aujourd'hui encore, d'autres formes d'injustice, d'esclavage, de discrimination asservissent notre humanité. Parmi celles-ci se trouve la violence domestique. La violence domestique n'est plus un tabou. On en parle dans les médias. Nicolas nous expliquait tout à l'heure ces bus qui vont venir dans notre canton. On en parle. Pourtant, dans la conversation de tous les jours, dans certains endroits, y compris dans nos milieux, elle reste un tabou. C'est un sujet dont nous préférons ne pas parler, dont nous préférons ne rien entendre, que nous préférons ne pas regarder. Pourtant, la violence domestique existe bel et bien et elle fait de plus en plus de ravages. Avant d'aller plus loin, on va faire une petite parenthèse sur qu'est-ce que la violence domestique, déjà par une vidéo.
La violence n'est plus tabou, mais ce qui est tabou, c'est d'en parler. Et je pense que c'est encore plus tabou d'en parler avec les personnes concernées.
On est face à des situations dramatiques, face à, voilà, à des drames humains, face à des situations qui prennent des fois des dimensions qui sont extrêmement regrettables. Et malheureusement, puis chaque année en Suisse, on parle d'environ 25 homicides.
Pour les personnes auteurs, un des enjeux, c'est de se responsabiliser, c'est de pouvoir comprendre que ce qu'ils font est délétère pour la personne victime. En tout cas, que ça a des graves conséquences, même si eux-mêmes sont en souffrance, et qu'ils développent des stratégies pour prévenir des passages à l'acte.
Malgré les nombreuses campagnes de prévention, malgré les combats pour l'égalité femmes-hommes, malgré les interventions policières auprès des auteurs, les violences domestiques continuent de générer des drames au sein des couples et familles qui en sont victimes.
Dissimuler les bleus et les bosses était devenu une préoccupation régulière. Quand cacher n'était plus possible, il fallait mentir. Pour un hématome, je disais que j'avais pris une porte. Pour un bras cassé, c'était un tas de bûches qui s'étaient écroulées. Quand je ne pouvais pas sortir, c'était une gastro. J'étais devenue très maladroite, souvent malade, et personne ne s'en étonnait. Le pire étaient les mots. Leur violence était invisible, mais tellement douloureuse. J'entends encore résonner « imbécile », bien articulé, pour que je comprenne. Je gérais seule le quotidien, mais j'étais incapable, selon les dires de mon époux.
Les toutes premières définitions définissent toujours en fait la violence conjugale comme étant un rapport inégalitaire.
On est en présence de violence domestique dès lors qu'une personne exerce ou menace d'exercer au sein d'une relation familiale, conjugale ou maritale une violence physique ou sexuelle, une violence économique ou sociale, une violence psychique, du harcèlement, des menaces, du mépris, de l'humiliation, etc., etc. Lors de violences domestiques, la peur est instaurée, l'emprise est installée. Les actes violents se déroulent la plupart du temps à la maison, c'est-à-dire dans un endroit censé offrir sécurité et protection. En exerçant ou en menaçant d'exercer l'une de ces violences, quelle que soit la forme, l'auteur porte atteinte à l'intégrité corporelle, physique et psychique de sa ou de ses victimes. La violence domestique se passe toujours là où la victime a toujours un lien émotionnel avec l'auteur, là où les victimes. Il existe une grande différence entre la violence domestique et les simples disputes. La relation de violence se caractérise par une domination unilatérale et le contrôle de l'un des partenaires sur l'autre. En Suisse, une personne meurt toutes les deux semaines des conséquences de la violence. Ça fait en moyenne 25 personnes par année, dont 4 enfants. En France, c'est une femme tous les 3 jours qui meurt sous les coups d'un proche, ce qui représente 123 femmes par année et 9 enfants. Environ 60% des victimes sont des femmes. La violence domestique est la cause principale de décès chez les femmes de 19 à 44 ans, et ce, partout dans le monde. Avant même le cancer, les accidents de la route, et même avant les guerres. C'est la raison pour laquelle souvent la violence domestique est associée à une violence envers les femmes. Pourtant, cette notion de violence comprend d'autres types de relations familiales. Dans 17% des cas, elle s'adresse à des enfants, des personnes âgées. Quelquefois, c'est à l'intérieur de la fratrie que la violence s'exerce. Elle peut provenir des enfants vis-à-vis des parents. Et quelquefois, elle peut être dirigée aussi contre les hommes qui représentent à peu près 20% des victimes. La violence domestique sévit dans tous les milieux sociaux, culturels, à tous les âges. Personne n'est à l'abri. Quand on entend ça dans les médias, dans les journaux, sur Internet, quand on entend ces chiffres, on se dit que les choses sont bien loin de ce qu'on pourrait penser ou de ce qu'on pourrait imaginer. On se dit que les choses sont bien loin de ce que dit la Bible. Le psaume 103, au verset 13, nous dit « Un père a compassion de ses enfants ». Le Deutéronome 6, 7 nous dit « Mes commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants ». 1 Pierre 3, 7 écrit « Marie, soyez attentionnée envers vos femmes, traitez-les avec respect ». Éphésiens 5, 25 nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elles ». Éphésiens 4, 29 écrit « Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui servent à l'édification et transmettent une grâce à qui les entend. » Hébreux 13, 4 nous dit « Que le mariage soit honoré de tous ». Vous connaissez le Corinthiens 13, 7 qui dit que l'amour ne s'irrite pas. Et puis l'Ecclésiaste 4, 9 qui dit « Mieux vaut être deux que tout seul ». Que deviennent donc tous ces versets, ces commandements, lors de tels événements? Ils sont oubliés, ils sont bafoués, ils sont foulés aux pieds. La violence domestique est un sujet qui est entouré de beaucoup de mensonges, de beaucoup d'hérésies et même d'injustices. Des mensonges distillés par Satan, qui, en fidèle père du mensonge, s'évertue à essayer de cacher la vérité. Il veut cacher la réalité et la vérité des faits et de ce qui se passe. Si tous ces versets et ces commandements sont ainsi oubliés et bafoués, lorsqu'un couple, une famille évolue dans une telle situation, si Satan s'évertue autant à noyer ce phénomène sous beaucoup de mensonges, c'est pour nous faire oublier une chose très importante. La violence domestique est un péché. Elle est un péché à part entière. Elle est un péché vrai, réel. Elle n'est pas simplement, une habitude. Elle n'est pas un défaut du monde. C'est pas un truc, ma foi, faut que ça arrive. Non, la violence domestique est un péché. Que nous le voulions ou non, que nous l'acceptions ou non, c'est un péché. Et Satan préfère nous cacher cela. Car si nous ouvrons les yeux et regardons en face la réalité, Si nous considérons la violence domestique comme un péché, plus personne ne pourrait la pratiquer et plus personne ne pourrait la subir. Les chaînes de ce péché seraient brisées par la force de la repentance des auteurs, par la délivrance et la guérison des victimes. Elles seraient brisées par la force de nos prières. Plus aucun agresseur n'oserait lever la main ou insulter ses victimes. Plus aucune victime ne cacherait la vérité par peur ou par honte. Car il faut le dire, les victimes de violences domestiques portent la honte. Elles portent la honte de ce qu'elles subissent. Elles portent la honte de ce qu'elles subissent et elles portent la culpabilité. En plus d'être maltraitées, en plus d'être insultées, en plus d'être battues, elles portent la honte. En plus, elles sont souvent stigmatisées par la société, par l'entourage et quelquefois même par les assemblées chrétiennes. Les victimes sont victimes des tabous qui règnent. Elles n'osent pas parler de ce qu'elles vivent, ni demander de l'aide. Elles s'isolent. Elles vivent l'accusation qui entraîne la culpabilité. Si Satan agit avec autant de mensonges et de tabous, c'est parce qu'il veut garder les victimes hors de la réalité, hors de la vérité. Il veut les écraser sous la culpabilité. Mais en gardant les victimes sous son joug, il garde aussi les auteurs. Les auteurs des faits sont aussi des victimes prisonniers du joug de Satan. Les auteurs de violences sont aussi soumis à leurs mauvais penchants. Ils sont soumis à la colère. Ils sont soumis à tout ce qui les pousse à insulter et à cogner sur les autres. Ils sont soumis autant que leurs victimes. Satan les tient enchaînés les uns comme les autres. À présent, frères et sœurs, il est temps que cela s'arrête. Il est temps que la vérité fasse place au mensonge dans tous les jours de notre vie en tant que chrétiens, en tant qu'assemblée. Il est temps que la vérité fasse place au mensonge dans la vie des victimes et dans la vie des auteurs de faits. Il est temps que soit chassé le mensonge de Satan et que la lumière de Christ vienne dissiper les ténèbres qui entourent ce péché. Ésaïe 61 nous dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques cités, ils relèveront des villes ravagées de génération en génération. La violence domestique est quelque chose qui détruit les vies et qui peut les détruire de génération en génération. Dieu nous a appelés un jour, il nous a fait nous lever et il continue de nous faire nous lever. Dieu nous a appelés pour qu'on ouvre nos bouches, pour qu'on défende les prisonniers. Peut-être que parmi nous ce matin, ou dans nos entourages, certains sont ou ont été sous cet esprit de mensonge. Que certains sont sous la cendre plutôt que sous le diadème. Que certains sont dans le deuil plutôt que dans la joie. Que certains ont un esprit abattu plutôt qu'un vêtement de louange. Certaines personnes présentes parmi nous peuvent avoir vécu ou peuvent vivre de telles choses. Peut-être que certaines personnes de notre entourage vivent ou l'ont vécu. Peut-être que certaines personnes présentes ce matin ou dans nos entourages ont été insultées profondément. Vous avez vu cette femme dans la vidéo, c'était les coups, c'était les insultes. Certaines personnes de nos connaissances, certaines personnes présentes ici peuvent avoir été humiliées, écrasées, publiquement ou dans l'intimité. Elles peuvent avoir entendu des mots orduriers dans leur enfance, leur adolescence, leur vie d'adulte. Des paroles d'accusation qui ont été lancées contre ces personnes et qui ont eu pour but la mort. Et souvent, les victimes vivent sous ce poids, sous ces accusations. Il est fort probable qu'il y ait parmi nous, dans nos entourages, de telles personnes, parce que nous avons tous un vécu. Si aucun d'entre nous connaissait minimum une personne touchée par ce fléau, nous vivrions sur une autre planète. Et en fait, nous ne sommes pas sur une autre planète. Nous sommes bien sur Terre, nous sommes bien en Suisse, nous sommes bien à la Chaux-de-Fonds. Et des victimes, il y en a dans notre canton, il y en a autour de nous. En tant que personne, en tant que chrétien, en tant qu'assemblée, nous devons veiller à ne pas salir, à ne pas nous aussi tromper, à ne pas piétiner davantage ces victimes, à ne pas leur refuser le droit d'exister et d'être reconnu en tant que victime en refusant d'admettre que la violence domestique est un fléau et qu'elle existe, et qu'elle peut exister jusque dans nos milieux. Ne refusons pas de reconnaître que la violence domestique est une réalité. Nous devons veiller à ne pas faire comme les pharisiens avec la femme adultère, à ne pas les traîner sur la place publique pour les montrer du doigt. Apprenons plutôt à faire comme Jésus. Lorsque les pharisiens ont amené la femme adultère, Jésus l'a accueillie. Il s'est accroupi par terre et il a écrit. Il a entendu, il a écouté, mais il n'a rien dit. Il n'a pas accusé. Lorsqu'il s'est relevé, il a parlé. On ne sait pas ce que Jésus a écrit par terre, mais on sait ce qu'il a dit. Jésus a simplement dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Personne n'a jeté de pierre. Tous sont partis. Les paroles de Jésus étaient porteuses de vie. Elles étaient porteuses de vie et de délivrance. Elles étaient porteuses de vie et de délivrance pour la femme adultère, mais elles étaient aussi porteuses de vie et de délivrance pour les pharisiens. Car personne n'a jeté la pierre. Chacun a réfléchi. Chacun a réfléchi à ses propres actes, à sa propre vie, à ses propres pensées, à son attitude. Ils ont traîné la femme adultère par les cheveux et en l'insultant devant Jésus. Ils sont tous repartis en réfléchissant à la portée de leurs actes. Il peut nous arriver, lorsque nous rencontrons une victime, d'avoir tendance à attendre qu'elle reconnaisse ses torts, qu'elle s'humilie. Il peut nous arriver d'avoir envie de la traîner sur la place publique, devant l'église, de l'accuser, de considérer que si elle a été victime, elle a certainement fait quelque chose pour le mériter. Elle a certainement fait quelque chose qui a déclenché la colère ou les insultes de son agresseur. Il peut nous arriver d'être capable de murmurer contre elle et nous oublions de faire comme Jésus. Nous oublions d'abord de nous incliner dans l'humilité et d'abord d'écouter la voix de Dieu. Jésus a relevé cette femme. Jésus relève les victimes de violences, de manipulations et de harcèlement. Jésus a entendu toutes les paroles. Il a vu tous les gestes qui ont été faits contre ces personnes et il les relève. Quelle que soit la manière dont les victimes sont arrivées dans cette période de leur vie, où elles ont connu les insultes, où elles ont connu la violence, Jésus les relève. Mais Jésus relève aussi les auteurs. Quelle que soit la raison pour laquelle les auteurs de violence ont commencé, Jésus les relève. Dès aujourd'hui, Jésus peut le relever. Il a déjà commencé dans la Bible, on le voit, à l'époque où il était là parmi nous, il a déjà commencé. Il a continué et aujourd'hui encore et demain, il peut les relever. Mais pour que Jésus puisse les relever, il faut que la violence domestique cesse. Et pour qu'elle cesse, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'assemblée, nous devons briser les murs des tabous. Nous devons briser les murs du silence. Le pasteur Martin Luther King a mené son combat pour la liberté du peuple afro-américain sans prendre les armes, sans violence, mais en osant prendre la parole et en dénonçant les faits. Sa lutte pour la liberté s'est faite dans la non-violence, mais par le poids des mots, par le poids de sa foi et avec l'aide de l'écriture. Sa résistance et celle de la foule qui l'a accompagnée s'est faite en chantant, en marchant, en priant et en prenant position face à la discrimination. Ensemble, ils ont brisé les tabous et les murs du silence qui entouraient le peuple noir américain et les faisaient vivre sous les pressions. Ensemble, nous pouvons briser les tabous et les murs de silence qui entourent la violence domestique. Nous pouvons le faire afin que les victimes puissent franchir les portes de la liberté, les conduisant hors de la honte et hors de la culpabilité. Nous pouvons briser les barrières des tabous et les murs de silence afin que les auteurs de violences domestiques puissent reconnaître leurs péchés, qu'ils puissent reconnaître leur état. Car reconnaître son état de victime, reconnaître son état d'auteur de violence, c'est déjà un pas vers la délivrance. Maintenant, bien-aimé, il est temps que ça cesse. Parce que Jésus a payé à la croix pour nous tous. Jésus a payé à la croix pour les victimes. Jésus a payé à la croix pour les auteurs de violences domestiques. Jésus a payé pour que nous redécouvrions notre dignité d'enfant de Dieu. Jésus a aussi payé pour les victimes de violences domestiques. Il a aussi payé pour les auteurs de violences domestiques. Pour que ces victimes deviennent libres en lui. Pour que le péché soit ôté de la vie des auteurs. Dieu nous dit que nous sommes dignes. Nicolas lui disait tout à l'heure, nous sommes dignes. Nous devons tous retrouver la dignité de Dieu dans nos vies. Les victimes doivent retrouver la dignité de Dieu dans leur vie. Les auteurs de violences doivent pouvoir retrouver la dignité de Dieu dans leur vie. Les victimes doivent pouvoir sortir de leur état de victime et devenir de nouvelles créatures en Christ. Les victimes ont aussi ce droit de devenir de nouvelles créatures en Christ. Les auteurs de violence doivent pouvoir sortir de cette colère, de cette violence qui les mine, qui les ronge. Ils doivent eux aussi pouvoir retrouver la dignité de Dieu dans leur vie. En tant qu'assemblée, en tant qu'église, nous ne sommes pas des professionnels. Nous ne pouvons donc pas œuvrer en tant que tels. Nous n'avons pas à porter la responsabilité de résoudre la violence. Mais nous pouvons et nous devons oser ôter la peur du milieu de nos églises. Nous devons oser briser le tabou de nos milieux, oser briser les murs de silence. C'est en les brisant dans nos milieux que nous pourrons les briser à l'extérieur de nos églises. C'est en brisant les murs des tabous et du silence que nous pourrons aider les victimes et les auteurs de violences domestiques. Martin Luther King a brisé les murs des tabous et du silence. Il l'a fait pour aider les Noirs américains. Nous pouvons le faire pour aider les victimes et les auteurs de violences domestiques. Nous sommes chrétiens. Nous sommes filles et fils de Dieu. En tant que tels, nous nous devons d'ouvrir les yeux sur la réalité de ce qui se passe dans notre société, de ce qui se passe autour de nous. Nous pouvons et nous devons ouvrir les yeux sur le fait que peut-être parmi nous, des personnes sont ou ont été touchées. Nous devons ouvrir les yeux, car nous sommes dans les derniers temps, bien-aimés, et d'autres personnes encore vont venir grandir nos rangs, et parmi elles peuvent se trouver d'autres victimes, parmi elles peuvent se trouver d'autres auteurs de faits. Nous devons ouvrir les yeux afin de pouvoir les aider, afin que la violence domestique cesse dans notre société. Aussi, aujourd'hui, je vous propose que nous nous levions pour briser ces tabous et ces chaînes. Que tous ensemble, nous nous mettions dans la prière pour que l'Esprit de Dieu vienne nous remplir davantage encore de lui et pour qu'il puisse remplir ces personnes, ces victimes et ces auteurs de violence de sa présence. Que nous prions tous ensemble pour que ces personnes puissent s'abandonner totalement à lui et qu'elles puissent être remplies profondément de l'Esprit de Dieu. Que nous prions tous ensemble pour que Dieu vienne ôter la cendre qui cache leur être et pour qu'il couronne leur tête du diadème. Pour que l'Esprit de Dieu ôte la honte et le deuil de leur vie et qu'il les remplisse de joie. Pour que l'Esprit de Dieu ôte leur esprit abattu et pour que ces personnes puissent être revêtues de l'esprit de louange. Pour que la guérison puisse se faire en eux et qu'elle puisse se faire de génération en génération dans leur famille. Dès aujourd'hui, je vous propose que nous proclamions la vérité de Jésus sur leur vie. Que nous prions pour que les esprits de mensonges de Satan soient brisés, qu'ils soient ôtés de leur vie et de leurs êtres. Que tout esprit d'aveuglement, que tout esprit qui vient tordre la vérité, que tout esprit du menteur qui le fait croire qu'ils ne valent rien, qu'ils ne peuvent pas être aimés, qu'il leur dit qu'ils sont inutiles, qu'il leur dit qu'ils doivent cogner ou insulter pour exister, que tous ces esprits de mensonges soient brisés. Que nous puissions prier et briser tout esprit qui veut garder sous l'esclavage les victimes et les auteurs de violences domestiques. Que nous puissions prier pour que le voile des ténèbres se déchire sur leur vie, sur nos vies, sur leur être, et qu'il soit renouvelé. L'Ecclésiaste 3, 4 nous dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour rire, un temps pour pleurer et un temps pour rire. » Il est temps maintenant que ces victimes et ces auteurs de violences puissent être délivrés des larmes, qu'ils puissent retrouver la joie de vivre en couple, en famille, et qu'ils puissent retrouver le rire. Pour les victimes et les auteurs pour qui la vie de famille n'est plus possible, il est quand même temps pour eux de quitter les larmes, de quitter le deuil et de retrouver le rire. Il est temps qu'en tant qu'Église, qu'en tant que frères et sœurs, qu'en tant que filles et fils de Dieu, nous puissions nous réjouir avec eux de leur liberté retrouvée. Et pour cela, nous devons les aider, les soutenir, les accompagner dans leur chemin de délivrance et de guérison et briser les murs du silence. Amen. On va prier. Seigneur, toi qui es un Dieu puissant, un Dieu de vérité, un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu de liberté, tu nous as fait la grâce de nous amener ici ce matin pour entendre ce que tu nous avais à nous dire. Tu nous fais la grâce de nous lever chaque jour, Seigneur, pour te servir. Et à l'intérieur de ce service, Seigneur, il y a aussi l'aide aux autres, ce que nous pouvons apporter aux autres. Moi, je veux te prier, Seigneur, pour que tu nous aides, à nous lever, chacun à la manière dont tu veux que nous nous levions. Nous sommes tous différents et tu veux tous nous conduire de manière différente. Mais quelle que soit la manière dont tu veux nous conduire, Seigneur, tu veux nous conduire à ne plus avoir peur, à oser nous lever, comme l'ont fait d'autres personnes avant nous, comme l'a fait Martin Luther King. Tu veux nous encourager à nous lever, Seigneur, et à ouvrir nos bouches. Et ce matin, Seigneur, plus que jamais, nous te demandons de nous conduire dans ces prières et dans l'ouverture de nos bouches. Amen.